Voilà. Voilà. Romains 5, 12. Donc on avait vu au début du chapitre 5 que l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. D'accord? Et qu'on peut se glorifier en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on a obtenu par lui la réconciliation. En d'autres termes, on a vu dans Romains chapitre 5, versets 1 à 12, que on a été sauvés, dans le sens que le salut passé, c'est qu'on a été justifié, pardonné, réconcilié, mais on sera sauvé au futur, dans le sens que, parce qu'on a été réconcilié avec Dieu, du point de vue du pardon des péchés, le jour où Jésus reviendra nous chercher, on sera sauvé par lui de la colère de Dieu. D'accord? Verset 9. À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Donc ça c'est que nous sommes justifiés, ça c'est le salut passé dans le sens que c'est fait. Serons-nous, ça c'est le salut futur, sauvés par lui de la colère. Hein? Donc pour nous, dans notre langage, parce qu'on est de milieu, disons, évangélique, protestants évangéliques comme vous voulez, on a tendance à mettre l'accent sur le salut qui a déjà eu lieu à la croix, en disant je suis sauvé, c'est fait, mes péchés sont pardonnés. Mais on a tendance à oublier, disons, ou à moins mettre l'accent en termes de vocabulaire sur le fait que nous serons sauvés de la colère au moment du retour du Seigneur. Vous voyez? Donc on est entre la première et la deuxième venue de Jésus-Christ, et notre salut, il a été accompli, mais il sera en quelque sorte achevé ou complètement rendu visible au moment du retour du Seigneur.
En gros, c'est comme si on avait un acompte. Le premier salut, c'est comme un acompte.
Alors, l'acompte du salut, c'est le Saint-Esprit qui nous est donné, les dons spirituels. Ça, c'est l'acompte, ou les arts de l'Esprit. D'accord? C'est un avant-goût du ciel. Non, par contre, le salut qu'on a en Jésus-Christ, il est total, le pardon, il est total. C'est pas un acompte, c'est pas un pardon partiel, le pardon, il est total. On est réconcilié avec Dieu, mais on sera sauvé de la colère au sens qu'au jour où Jésus-Christ reviendra, tout ce qui s'est passé, si vous voulez, pour nous intérieurement, ça deviendra quelque chose de public, de manifeste, et notre corps sera changé en un corps glorieux. Si bien que, même si on sait qu'on est sauvé intérieurement, on attend notre salut de manière définitive et complète lorsque Jésus-Christ reviendra. Et entre deux, on vit certaines épreuves et certaines persécutions. Pourquoi? Parce qu'on est ce que les théologiens appellent entre le déjà et le pas encore. Vous voyez? Le déjà, c'est ce que Christ a fait à la croix. Le pas encore, c'est son retour glorieux. Et entre deux, on est dans l'attente. C'est ce qui est aussi décrit dans 1 Pierre, chapitre 1. On peut juste lire ça. 1 Pierre, chapitre 1. C'est tout ce qu'on a la notion de l'espérance chrétienne. 1 Pierre 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Voyez? Donc on a l'héritage, on a été régénéré, mais cet héritage, il est dans les cieux. Hein? À vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voyez? Donc il y a une attente de ce salut. Vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Pourquoi un sujet de louange, de gloire et d'honneur? Si vous voulez, ce qu'on lit ici, c'est vraiment le texte parallèle à Romains 5, versets 1 à 12. 1 à 11. Parce que on n'aura pas cru en vain. Est-ce qu'on a vécu intérieurement le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, parce qu'on aura tenu ferme et qu'on aura, malgré les épreuves, attendu le retour du Seigneur? On n'aura pas honte le jour où il reviendra nous chercher, n'est-ce pas? Et où ce que ceux qui nous entouraient estimaient être, on a reçu des moqueries, on a été persécutés. Mais là, les choses pour lesquelles on a cru, eh bien, elles seront visibles pour tout le monde, si vous voulez. Donc ce sera un sujet de louange, de gloire et d'honneur. Lors de la révélation, ou si vous préférez, de la manifestation de Jésus-Christ. Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse en remportant pour prix de votre foi le salut de vos âmes. Les prophètes qui ont... Bon, voilà, on peut s'arrêter là. Et verset 13, c'est pourquoi affermissez votre pensée, on est toujours dans 1 Pierre, soyez sobre, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, ça veut dire, ben, en attendant cette pleine manifestation du salut, puisque vous avez reçu Christ dans votre cœur et que vous savez à quoi vous en tenir, eh bien, ayez une parfaite espérance, c'est-à-dire sans faille, hein. C'est pour ça qu'au verset 11 de Romains 5, Paul dit « Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. » Et Paul appuie sur le « maintenant » pour dire « Ça y est, c'est bon, on l'a, ce salut, mais on est encore dans l'attente, on est sauvé en espérance, comme dit un autre texte. » Amen. C'est pourquoi... Verset 12, on arrive au verset 12, de Romains chapitre 5. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, et ici il fait allusion à Adam, hein, vous verrez pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché, trois petits points de suspension. Alors, il n'y a pas trois petits points de suspension dans le texte original, mais si vous voulez, la suite de ce verset, c'est verset 18. Si on lisait le verset 12 suivi du verset 18, ça donnerait ceci. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ainsi donc, verset 18, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même. Et puis, il va faire la comparaison avec le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ.
On parle de la mort spirituelle, mais est-ce qu'on parle aussi de la mort physique?
On parle des deux, mort spirituelle, mort physique. Mais ici, c'est plutôt la mort physique, en l'occurrence. Donc, on revient au verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Comment est-ce que le péché est entré dans le monde? Au moment du jardin d'Éden. Maintenant, à d'autres endroits, Paul dit bien précisément que c'est Ève qui a péché. Donc, pourquoi est-ce qu'il dit ici par un seul homme et non pas par une seule femme?
Parce que c'est homme avec un grand H.
Ah, parce que c'est homme avec un grand H, disons, il se réfère bien précisément à Adam, quand même. Ok? Mais parce que, même si c'est vrai que c'est Adam, que c'est Ève qui a été séduite, etc., néanmoins, Adam a aussi une responsabilité dans la chute. Ce qu'on appelle la chute, c'est-à-dire dans la manière dont le péché est entré dans le monde. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 3, verset 8, il est dit que Adam était auprès de Ève. Et la préposition en hébreu auprès d'Ève vraiment veut dire qu'il était comme en train de l'entourer avec son bras. Il était vraiment à côté d'elle. Il n'était pas à 50 mètres. Et puis, vous savez, comme quand vous entendez une conversation, vous dites, mais elle parle avec qui là? Non, 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 il était à côté. Il a tout entendu. Il a tout vu. Il a été témoin de toute la conversation entre Ève et le serpent. Et il n'a rien dit. Donc, comme il n'a rien dit, il est coupable. Parce que c'était lui la tête, c'était lui qui était censé protéger le jardin et protéger sa femme. Vous comprenez? Et donc, Adam est responsable. C'est par un seul homme, bien sûr que Ève a aussi sa responsabilité, mais Adam est responsable. Sinon Dieu aurait dit, au moment où Adam reportait le blâme sur Ève, en disant « mais c'est la femme que tu as mise à côté de moi », Dieu aurait pu dire « oui, t'as raison, c'est elle, c'est de sa faute, mon pauvre, on va la juger elle, et puis toi, on va t'exonérer. » Non, Dieu dit pas ça, vous êtes d'accord? Dieu lui dit, tu seras jugé toi, et puis elle aura son jugement, et puis enfin chacun est jugé en fonction de sa responsabilité. Hein. Donc l'homme, je parle de Adam ici, et puis après on pourrait parler des couples en général, le mari aussi a sa responsabilité, mais ça c'est une autre question. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 13, car jusqu'à la promulgation de la loi, enfin littéralement, car jusqu'à la loi, et puis on rajoute la promulgation parce que c'est pour... Paul est très concis, elliptique dans sa manière de parler ici, et on a un peu de peine à comprendre ce qu'il veut dire. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure ou le type de celui qui devait venir. Il faut lire ces trois versets au minimum ensemble, 12, 13, 14, pour essayer de comprendre quelque chose. On voit ici à la fin du verset 14 qu'effectivement, il s'agit d'Adam, qu'il est le type ou la figure de celui qui devait venir, c'est-à-dire le Messie, Jésus. D'accord? Maintenant, au verset 12, ce que Paul dit, c'est que le péché est entré par un seul homme, et par le péché qui est rentré, la mort... et que tout le monde, que tous passent par cette mort, et il précise parce que tous ont péché, d'accord? Et on aimerait savoir pourquoi est-ce qu'il rajoute ça.
Là, parce que c'est la descendance d'Adam qui a péché.
Alors, nous, si vous voulez, on est héritiers d'une doctrine qu'on appelle le péché qui est hérité d'Adam, le péché originel, en quelque sorte. Vous voyez, la doctrine du péché originel, qui a été beaucoup développée par saint Augustin, mais contre un certain Pélage, et puis il y a eu toutes sortes de querelles historiques au niveau des théologiens par rapport à cette affaire de péché originel. Hein. Et donc, on a été un peu élevé dans cette connaissance du fait qu'il y a un péché originel. Mais néanmoins, quand Paul dit « parce que tous ont péché », il ne dit pas ça dans le sens, il ne précise pas « tous ont péché malgré eux ». Il ne dit pas ça. Il dit « tous ont péché, point barre ». Donc il est bien probable ici que Paul dise que si les hommes sont morts, c'est parce qu'ils ont péché. Ça, c'est, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 3, verset 23, d'accord ? Mais néanmoins, il précise au verset 13 qu'il y a un problème. Il y a une sorte d'injustice. C'est quoi l'injustice? Jusqu'à la loi, sous-entendu la loi de Moïse, d'après le contexte, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné, depuis Adam jusqu'à Moïse, donc durant cette période où il n'y avait pas de loi encore. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, normalement, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. En tout cas, il y a du péché, mais il n'est pas... comment dire, il n'est pas punissable. D'accord? On ne peut pas punir quelqu'un qu'on n'a pas averti. Vous voyez? Même s'il fait la faute, on ne l'a pas averti, on ne lui a pas dit que c'était une faute, donc on ne peut pas le punir. On peut lui dire après coup ce que tu as fait là, c'était une faute. Ah bon, je ne savais pas. Bon, bah si tu ne savais pas, je ne peux pas te punir, vous comprenez? Donc, ce que Paul est en train de nous dire, c'est que ce n'est pas normal, ce n'est pas juste que des hommes qui ont péché sans la connaissance de la loi soient et néanmoins eut à subir la punition du péché qui est la mort. Vous voyez? Il y a quelque chose qui semble injuste ici. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Maintenant, on sait évidemment que, d'après Paul, dans Romains chapitre 2, il y a les hommes ont une loi en eux-mêmes. Il y a une sorte de loi naturelle. Donc, ils n'étaient pas complètement, vous voyez, je veux dire, ignorants de tout, dans ce sens-là. Il y a la conscience qui parle. Mais du point de vue strictement légal, parce que Paul, rappelez-vous qu'il est rabbin, du point de vue strictement légal, les hommes, dans l'absolu, n'auraient pas dû mourir. Ils n'auraient pas dû être punis au même titre que Adam. Adam, quand il pêche, il a reçu un commandement clair. La loi pour Adam, c'est quand Dieu lui dit « Tu ne mangeras pas de cet arbre, sinon tu mourras certainement. » Donc il y avait un commandement, il y avait un avertissement, et puis il y a eu une sanction. Là, c'est clair. Pour Adam, il méritait la mort. Dieu lui avait dit « Si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. » Et ça lui est arrivé. Hein? Mais pour ceux qui ont suivi Adam et qui ont péché de toutes sortes de manières possibles et imaginables, eh bien, on pourrait dire, eux, ils ne méritaient pas la mort. Parce qu'ils n'ont pas été avertis au même titre qu'Adam. Il n'y avait pas la loi. Après, à partir de Moïse, là aussi, tout est écrit, tout est stipulé clairement. Et donc, il paraît normal que les gens qui commettent des fautes subissent la peine de leurs fautes parce qu'ils ont été avertis. Vous voyez? Donc il y a quelque chose, je répète, quelque chose qui paraît injuste. Et Paul fait exprès de mettre le doigt là-dessus, d'accord? Parce que ce qu'il veut nous montrer, c'est que l'humanité, à cause d'Adam, a été mise a été enfermée dans quelque chose qui est difficile, voyez ? Qui est difficile. Maintenant, Paul ne veut pas dire pour autant qu'on est innocent, parce qu'il dit parce que tous ont péché, et quand il dit parce que tous ont péché, en fait, il parle ici du fait que, du point de vue expérimental, chaque être humain va commettre des péchés qui sont ses péchés personnels, dont il est responsable personnellement. Vous voyez? Donc, sur le fond, Dieu reste juste. Mais sur la forme, du point de vue légal, il y a un problème. C'est ce que Paul essaye de nous expliquer ici. Puisqu'il dit au verset 14, « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. » Vous voyez? Pourquoi est-ce que Paul insiste là-dessus? C'est parce qu'il va chercher à faire une comparaison entre ce qui s'est passé à partir d'Adam et ce qui va se passer à partir de Jésus-Christ, le Messie, le nouvel Adam. D'accord? Celui qui devait venir à la fin du verset 14, c'est Jésus. Donc on va lire la suite et vous allez mieux comprendre. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de la faute. Car si par la faute d'un seul, toujours ici il est parlé d'Adam, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. En fait, l'idée ici, c'est quoi? C'est de dire que si Dieu a permis que par la faute d'un seul, tant de personnes soient affectées par la mort, à combien plus forte raison Dieu permet que par la justice d'un seul, donc de Jésus-Christ, tant de personnes puissent être justifiées, puissent recevoir la vie et la grâce. Vous comprenez? Donc, plutôt que, si vous voulez, plutôt que de chercher le détail, Paul, plutôt que dire, ben voilà, maintenant, on a un problème avec l'histoire entre Adam et Moïse, et puis on estime qu'il y a une injustice, il dit, ce qui peut paraître injuste à ce niveau-là est largement compensé par la grâce de Dieu à partir de Jésus-Christ. C'est ça qu'il est en train de nous dire, vous voyez? Et plus que compensé, hein? Car par la faute d'un seul, verset 15, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu, le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme. C'est-à-dire que le don de la grâce par Jésus-Christ ne fonctionne pas de la même manière, même s'il y a des points de comparaison possibles, que la faute de Adam. Car si par là, on est ici au verset 16. Car le jugement, après une seule faute, aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit, après de nombreuses fautes, aboutit à la justification. Premier point de comparaison. Paul dit, il a suffi d'une seule faute pour qu'il y ait la condamnation. Mais en ce qui concerne la justification, on a commis plein de péchés, d'accord? Et néanmoins, à la fin de l'histoire, on est justifié. Alléluia. Vous comprenez comment ça marche? Donc, Dieu est un Dieu de grâce, dans ce sens-là. Et la grâce, enfin, si vous voulez, le ministère de la grâce est beaucoup plus glorieux que le ministère de la condamnation. C'est ce que Paul dit aussi dans son épître aux Corinthiens. Beaucoup plus glorieux, beaucoup plus extraordinaire. Verset 17, si par la faute d'un seul, là on parle d'Adam, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Voyez, entre parenthèses, au verset 17, c'est par la faute d'un seul que la mort a régné par lui seul. Donc, si vous voulez, même si tous ont péché, verset 12, néanmoins, si tous meurent, c'est seulement à cause d'Adam. Vous suivez? On hérite non pas du péché, mais ici, dans ce texte en tout cas, on hérite de la culpabilité d'Adam. Ce n'est pas tout à fait la même chose. On est tous pécheurs par notre propre péché. Maintenant, il y a aussi une nature qui est héritée, mais ce n'est pas dans ce texte qu'il en est parlé. Par contre, on est tous coupables à cause d'Adam. Hein? On hérite de sa culpabilité. Par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul. À bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Donc, ce qu'il explique ici, sa comparaison, c'est de dire, si Adam, à lui tout seul, avec sa faute, il a pu avoir une telle influence, nous qui recevons la grâce de Jésus-Christ, on peut aussi régner dans la vie. Alléluia. Et être au bénéfice de cette grâce et de cette vie. Ainsi donc, verset 18, comme par une seule faute. Et donc là, si vous voulez, Paul a fait, comment dire, a commencé à développer sa pensée, mais là, il se rattache au verset 12 pour finir sa phrase. On reprend le verset 12. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ainsi donc, verset 18. Comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, condamnation sous-entendu la mort, hein, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen.
Mais alors,
Alors vous me direz, alors c'est bon, tout le monde est sauvé. Il n'y a plus besoin de prêcher l'évangile. Non, mais il y a des gens qui disent ça. C'est pour ça que je provoque. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est sauvé? Non? Parce que cette justification, il faut la recevoir par la foi. Mais potentiellement, ce que Paul explique, c'est que potentiellement, tous ceux qui reçoivent par la foi ce don gratuit, ils sont sauvés. Maintenant, tout le monde ne veut pas recevoir cette grâce. Vous voyez?
Et tous ceux tu sais, ceux
Oui?
qui ont péché mais qui ne le savaient pas, qui selon la foi ne méritaient pas la mort. Pourquoi, enfin, J'arrive pas à développer, mais pourquoi ils sont morts alors puisqu'ils ne le savaient pas? Tu vois, je sais que Dieu est saint.
Alors, dans, il y a des textes qui montrent, bon, c'est un peu compliqué dans un sens, parce qu'on n'a pas toutes les données, mais le Nouveau Testament montre par certains textes que ceux qui sont morts dans l'Ancienne Alliance, si vous voulez, enfin, dans l'Ancien Testament, Jésus, au moment de sa propre mort, va dans le Shéol, donc dans l'antichambre, vous voyez, où se trouvent tous ces gens-là. Et il leur prêche l'évangile, d'après l'épître de Pierre. C'est-à-dire qu'ils ont eu ce qui leur a manqué à ce moment-là, comme connaissance, ils l'ont à ce moment-là. Et donc, Jésus prend avec lui ces gens auxquels il manquait cette connaissance. Oui, donc, si tu veux, au final, Dieu est juste. Dieu sera juste aussi pour ces générations-là. Et il est parlé dans Pierre du temps de Noé. Et puis là, Paul parle entre Adam et Moïse. Mais on n'a pas tous les détails. D'accord? Mais ce qu'on sait d'après ces textes et ces indices qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu, par la mort de Christ qui est descendu aux enfers et qui a vu tous ces gens-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il leur a dit exactement, mais on sait que finalement, Dieu, enfin, la justice sera faite et le jugement de Dieu sera juste, même pour eux. D'accord? Quant à nous qui connaissons, qui sommes arrivés après Jésus-Christ, eh bien, on a l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Quand il dit qu'elle s'étend à tous les hommes, c'est qu'elle est disponible pour tous les hommes. Ce n'est pas automatique, mais elle est mise à disposition de tous les hommes qui veulent bien la recevoir par la foi. Il y a bien des textes qui montrent qu'il faut la recevoir par la foi. D'accord? Verset 19. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. On est dans Romains chapitre 5, verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors l'obéissance de Jésus-Christ, elle contrecarre la désobéissance d'Adam. Vous voyez? Et c'est pour ça que le diable a tout fait pour faire désobéir Jésus au moment de la tentation dans le désert et même au moment de la croix. Descends de ta croix si tu es fils de Dieu. Montre-nous ce que tu sais faire. Ou bien dans la tentation dans le désert, transforme ces pierres en pain. Sous-entendu, fais des choses que Dieu t'a pas demandé de faire. Et ça, c'est la désobéissance. Vous voyez? Ou bien prosterne-toi et m'adore. Fais quelque chose que Dieu t'a interdit de faire. C'est la désobéissance. Donc il a été poussé, Jésus a été poussé à la désobéissance, mais il a résisté à la tentation. Et il est resté dans l'obéissance parfaite. Et au moment de sa mort sur la croix, il était tenté de descendre de la croix. Mais il est resté sur la croix. Oui. Donc il était obéissant jusqu'à la mort, Philippiens chapitre 2. Et c'est cette obéissance qui nous sauve, amen, qui nous rend justes. Donc je répète le verset 20. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, donc on parle d'Adam ici, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Donc c'est comme si Paul disait, aussi catastrophique qu'ont été les conséquences de la désobéissance d'Adam pour toute l'humanité. Aussi glorieuses sont les conséquences de l'obéissance de Jésus pour tous ceux qui croient. Alléluia. C'est pour ça qu'au verset 20, il dit, Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée ou pour que le péché abonde. Hein? Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Là où le péché s'est amplifié, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ça, c'est vrai dans notre expérience personnelle, c'est vrai dans toute l'histoire du salut. Là où on a l'impression que c'est le pire, c'est là que la grâce est d'autant plus glorieuse et que Dieu se glorifie d'autant plus en sauvant le pécheur et en faisant surabonder sa grâce. La loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Ça paraît contradictoire et Paul va revenir là-dessus dans Romains chapitre 6 et 7, mais parce qu'on se dit, alors je ne comprends pas. La loi, normalement, elle est là pour limiter le péché. Et puis là, Paul dit que la loi est intervenue pour augmenter le péché. Ce n'est pas l'augmenter dans le sens que Dieu veut que tout le monde pêche, mais c'est dans le sens que la loi fait ressortir la nature pécheresse de l'homme. D'accord ? Et donc, de cette manière-là, le péché est amplifié. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Comment c'est marqué dans vos traductions ? Parce que moi, je n'aime pas trop. Dans ta derby.
C'est un peu pareil.
Vas-y.
Or, la loi est intervenue afin que la faute abondât. Mais là où le péché abondait, la grâce a surabondé.
Voilà.
Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi aussi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Voilà. La loi est intervenue pour que la faute abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ok ? Donc vous pouvez considérer une situation où le péché, avec ses conséquences, a abondé, et savoir que Dieu est capable de faire surabonder sa grâce. Alléluia. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Quelle que soit la situation à laquelle on pense, la famille, le pays, la personne, tout ce qui s'est passé, Dieu peut faire abonder sa grâce parce que en Jésus-Christ et l'obéissance de Jésus-Christ, eh bien, c'est suffisant pour ces choses. C'est largement suffisant. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que Paul ne fait pas que, si vous voulez, ne met pas Jésus sur un pied d'égalité avec Adam. Il y a une comparaison possible dans le sens que l'un et l'autre sont fédérateurs pour l'humanité. Mais il n'y a pas de comparaison possible en termes d'efficacité. On est choqué par les conséquences dramatiques de la désobéissance d'un seul homme, mais les conséquences de la grâce de Jésus-Christ sont infiniment plus grandes. Vous voyez ? Et donc, ça, non seulement ça compense, mais ça dépasse de très loin tout ce que Adam a fait de négatif. Alléluia. Parce qu'il parle ici d'une grâce qui surabonde. Ok ? Donc c'est pas juste, comment dire, d'annuler ce qui a été fait, mais c'est une grâce qui surabonde. Alléluia. Il est dit que beaucoup seront rendus justes. On le verra plus loin, mais la justice que Christ nous donne, c'est plus que simplement effacer la dette. Effacer la dette, c'est plus que mettre les comptes à zéro, mais c'est en plus nous donner sa justice parfaite, d'accord ? Et nous rendre semblables à lui, faire de nous ses frères, faire de nous ses héritiers. Alléluia. Donc, Dieu finalement arrive non seulement à nous sortir du piège du péché et de la mort, mais en plus à nous amener dans l'abondance de sa grâce qu'il avait toujours voulu pour l'humanité.
Dans la parole de vie, je pense que c'est plus clair.
Alors, dites-nous dans la parole de vie.
La loi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore.
Voilà, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore, là où les fautes étaient nombreuses. Amen. Et ces bienfaits de Dieu, c'est d'une part le pardon de nos péchés, mais plus que cela, c'est comme Paul disait au verset précédent du chapitre 5, il disait, mais c'est, on se glorifie parce qu'on sait qu'on sera sauvé par sa vie. Alléluia, à la fin du verset 10, on est sauvé par sa vie. Donc il y a une vie abondante, il y a une grâce extraordinaire, il y a une puissance de vie qui est mise à notre disposition en Jésus-Christ. Non seulement on est sauvé de la mort, mais on est au bénéfice de sa vie. D'accord ? Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a la guérison dans cette vie. Il y Il y a un fleuve de guérison, il y a un fleuve de pardon, il y a un fleuve de vie. Tout ça, c'est dans le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on attaque maintenant. Oui, on a le temps. Est-ce que vous avez des questions sur le chapitre 5 ou c'est bon? On n'a pas vraiment, si vous voulez, abordé tous les problèmes que ça représente, mais l'idée de ce commentaire sur les Romains, c'est vraiment de comprendre l'essentiel du texte. Et après, chaque verset, chaque morceau de verset a été analysé en profondeur pour des raisons théologiques. Mais ici, notre but, c'est de comprendre la lettre de Paul aux Romains de manière cohérente. Vous voyez ? Et non pas de faire de la spéculation théologique. Chapitre 6. Que dirons-nous donc ? Parce qu'il vient de dire, Paul vient de dire, que la grâce a surabondé. Alléluia. Que dirons-nous donc ? Parce qu'il nous, comme toujours, Paul nous anticipe les questions qu'on va lui poser. Hein. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Parce qu'on pourrait dire, puisque là où le péché abonde, la grâce a surabondé, on va continuer à pécher, comme ça, on sera encore plus béni. Vous voyez ? Alors, Paul dit, mais jamais de la vie, hein, certes non. Nous qui sommes morts au péché, verset 2, comment vivrions-nous encore dans le péché? Et là, c'est intéressant parce que si vous voulez, Paul amène ce verset 2, il est fondamental. Paul amène une nouvelle donnée, une nouvelle information qui est extrêmement importante. On n'est pas seulement au bénéfice de la grâce. On n'est pas seulement au bénéfice du pardon, d'accord, mais on est mort avec Christ. Nous sommes morts au péché. Vous voyez ? Et en fait, ce verset-là, et puis les versets qui suivent qui le commentent, c'est vraiment une des clés qui a été oubliée au niveau de la Réformation. Aujourd'hui, on parle beaucoup, 2017, 1517, 500 ans de la Réformation, et puis certains disent... Il faut redécouvrir la grâce et il faut la redécouvrir tous les jours, la grâce, parce qu'on en a vraiment besoin. Mais, et c'est une certitude. Mais si vous voulez, il y a une des choses qui a été perdue en cours de route et qui était évidente pour Luther et les réformateurs, c'est que non seulement on est au bénéfice de la grâce, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va abonder dans le péché. Pourquoi ? Parce qu'on doit être conscient qu'on est mort avec Christ. Vous voyez ? Et si on a compris Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, à ce moment-là, on vivra la grâce selon la bonne perspective. Mais si on vit la grâce dans la perspective de quelqu'un qui dit, de toute façon, je peux faire ce que je veux parce que mes péchés sont pardonnés, ça veut dire qu'on n'a rien compris au salut. Vous voyez ? C'est comme si on était nous-mêmes aux commandes. On utilise la grâce parce que ça nous arrange bien, mais Christ n'est pas devenu le maître de notre vie, c'est nous qui sommes le maître, c'est nous qui gardons les commandes, vous voyez ? C'est pas Dieu qui est aux commandes. Et ça, c'est très dangereux. Parce que c'est une illusion de vie chrétienne qui n'est pas une vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est d'abord rencontrer Jésus et le suivre, être un disciple de Christ, vous voyez ? Et Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? À plusieurs reprises dans les évangiles, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et puis qu'il soit mon disciple, vous voyez ? Donc sans ce renoncement à soi-même, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Sans cette mort au péché, et cette mort à soi-même, on ne vit pas en tant que disciple de Jésus-Christ. Et donc ce que nous, à ce moment-là, on appelle la grâce, et la grâce dont on se glorifie depuis la Réformation, finalement, on n'a rien compris. Ce n'est pas vraiment la grâce, d'accord ? C'est quelque chose qu'on a inventé, parce que la vraie vie chrétienne, c'est d'être mort au péché. Alléluia ! Donc ça, c'est-à-dire, s'il y a une chose qu'on a besoin de comprendre aujourd'hui, pour ces 500 ans de la Réformation, c'est bien celle-là. Verset 3. Ignorez-vous, on est dans Romains 6, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Donc qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Il nous dit qu'on doit se rappeler de ce qui s'est passé au moment de notre conversion. Dans le Nouveau Testament, les gens étaient baptisés le jour où ils acceptaient Jésus-Christ comme sauveur. Ça se passait dans la foulée, si on peut dire ça comme ça. D'accord? Et dans le baptême, Paul dit, on est mort avec Christ et on ressuscite avec lui. Quand Jésus sort de l'eau du baptême dans Luc 3 et Matthieu 3, il est en prière, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit vient sur lui immédiatement. C'est comment il s'appelle, Duplessis, qui raconte que quand il était jeune, en Afrique du Sud, parmi les Zoulous, les gens étaient baptisés dans la rivière. Quand ils sortaient de l'eau, ils se mettaient à parler en langue, ils étaient baptisés du Saint-Esprit immédiatement. Tous, sans exception. Intéressant, hein? Donc nous, notre pratique du baptême, elle est un petit peu déconnecté parfois, à la fois de la conversion des gens, parce que ça fait des fois 6 mois après, à la fois du baptême du Saint-Esprit, parce que parfois les gens sont baptisés d'eau, mais ils ne sont pas enseignés sur le baptême du Saint-Esprit, donc c'est un petit peu dispersé, on est un peu en ordre dispersé là. Mais dans la pensée du Nouveau Testament, tout fait un, en quelque sorte, vous voyez, et les pièces du puzzle sont mises ensemble, et donc Paul peut dire sans problème, parce qu'il sait à qui il s'adresse, quand vous avez été baptisé, vous rappelez ce qui s'est passé. Vous êtes sorti de l'eau du baptême, vous étiez rempli du Saint-Esprit, la puissance de marcher en nouveauté de vie. Donc, au moment du baptême, vous avez vécu, c'est à la fois, bien sûr c'est un symbole, ça symbolise quelque chose, mais c'est plus qu'un symbole, c'est une réalité spirituelle, il y a une coupure avec votre vie passée, vous êtes mort avec Christ, vous ressuscitez avec lui, et vous êtes rempli du Saint-Esprit pour marcher en nouveauté de vie. Donc, vous êtes... Vous ne pouvez plus vous amuser avec le péché. C'est pas possible. Vous voyez? Ou alors, vous reniez votre baptême, quelque part, en fricotant avec le péché. Vous voyez? Alors, Paul n'est pas en train de dire ici, attention, maintenant que vous êtes baptisé, vous ne pouvez plus pécher. C'est pas ça qu'il a dit, attention. On peut toujours pécher. Mais la possibilité de ne pas pécher nous a été donnée à ce moment-là. C'est-à-dire que non seulement on est lavé de nos péchés par la repentance, au moment où on se repent de nos péchés, d'accord? Mais en plus, Dieu nous donne l'équipement nécessaire pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia! Et donc, Paul nous dit, au verset 11, hein, donc attention, l'eau du baptême n'est pas magique, d'accord? Mais c'est l'action du Saint-Esprit au moment du baptême qui crée ces choses. Verset 11, « Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Amen. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises, verset 12. Ne livrez pas vos membres au péché comme arme pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme des armes pour la justice. Ce verset est très fort, verset 13. Notre prof principal de français ici à l'école, il y a 1 an et 1 mois, Elle a fait une double embolie pulmonaire. Elle a été sauvée de justesse. Elle était en train d'aller à la poste avec son fils et puis elle a eu une douleur à la poitrine, elle ne pouvait plus marcher. Elle a dit à son fils, écoute, emmène-moi à l'hôpital. Heureusement qu'elle a dit. Et puis ce matin-là, je priais pour l'école et j'avais reçu ce verset de Romains 8, verset 11. Celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts ressuscitera aussi votre corps mortel. Amen. Et je pensais que c'était pour l'école, au sens Seigneur, ressuscite toutes les activités de l'école. C'était le 1er septembre. Je priais pour le. Vous voyez, et comme j'avais reçu ce verset, je priais sur ce verset et je priais pour l'école, les activités de l'école, etc., les étudiants et tout ça. Et puis à 4 heures de l'après-midi, j'ai appris que elle était hospitalisée. Et depuis, elle nous dit, eh bien, chaque jour est un cadeau, parce que je devrais être morte. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand Paul dit ici, comme des vivants revenus de la mort, ça veut dire que pour nous, nous sommes morts en Christ. Nous devrions être, vous voyez, je veux dire, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une grâce en plus. Vous voyez? En fait, à la croix, notre vie terrestre, notre vie selon la volonté de la chair, comme dit Jean chapitre 1, d'accord? Tout ça, c'est fini à la croix. Dieu a mis un terme à tout ça. Le baptême, c'est la fin de votre vie terrestre. Et à partir du baptême, vous avez une vie qui est céleste. Vous saviez ça? Donc toutes vos ambitions terrestres, vos plans, la retraite, le machin, le truc, le bateau que je veux acheter, tout ça, en tant que chrétien, ça ne nous touche plus. Parce que notre plan de retraite, il est au ciel. OK? Notre trésor, il est au ciel. Vos comptes, code des vies, machin, je ne sais pas quoi, livret A, livret B, livret C, livret D, ce que vous voulez, j'en sais rien. OK? Ça a quelle importance? Bien sûr, on est toujours sur la terre, comme dit Paul, si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, ou littéralement du Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi. C'est-à-dire que bien sûr, on a encore nos obligations terrestres, mais il dit, n'obéissez pas à vos convoitises. Ne faites pas les volontés de la chair. Parce que tout ça, c'est fini, en fait. C'est déjà terminé. Votre vie, elle est cachée avec Christ en Dieu, Colossiens chapitre 3, verset 1. Vous comprenez? Tout ça, c'est terminé. Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi? Vous êtes mort. Il n'y a pas d'inquiétude. C'est Christ qui règne, oui ou non? Alors oui, on a encore, on doit gérer les choses, le quotidien, on gère le quotidien, mais on sait profondément, comme dit Paul ici, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et ensuite, il parle littéralement, verset 13, de livrer ses membres. Ça veut dire que... Et c'est ça qui est intéressant avec le baptême d'eau. Parce que c'est un baptême par immersion. Le mot baptême, d'ailleurs, baptême par immersion, c'est un pléonasme. Ça veut dire immersion par immersion, parce que le mot baptême veut dire immersion. Le baptême est une immersion par définition. Et quand vous êtes baptisé, si vous vous souvenez de votre baptême, quand vous êtes baptisé d'eau, on vous plonge dans l'eau. Donc chaque partie de votre corps est mouillée. Ça marche? OK? Et donc, c'est comme si vous disiez à votre propre corps, maintenant, tu n'appartiens plus, c'est comme si je disais moi, à mon corps, tu n'appartiens plus à Jean-Hugues, tu appartiens à Christ. Tu fais plus les volontés de Jean-Hugues, tu fais les volontés de Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous livrez vos membres comme esclaves à la justice, vous voyez, comme armes pour la justice, et vous dites à votre corps, c'est fini maintenant, tu ne feras plus les quatre volontés de la chair. D'accord? Tu feras la volonté de Dieu. Et donc, il y a quelque chose de pédagogique dans le baptême. Quelque chose de pédagogique dans le baptême, dans le sens que vous marquez, il y a une marque sur votre corps. C'est pas un tatouage, comme certains maintenant, c'est à la mode, même dans certains milieux chrétiens, de faire des tatouages. Vous n'avez pas besoin de faire un tatouage, le baptême est largement suffisant. D'accord? Parce qu'il y a une marque. Il y a une marque à ce moment-là. Dans le monde spirituel, il y a une marque. Les démons savent que vous avez pris le baptême. Ils le savent. J'aime autant vous dire qu'ils le savent. Mais vous-même, votre corps a une mémoire. Vous voyez? Vous avez été baptisé et donc vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Christ. Alléluia! Alors, on est au verset 13. Comme des vivants revenus de la mort, offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Vous savez que, non, je ne sais pas comment l'interpréter exactement, mais Paul parle souvent du péché qui est dans le corps ou dans les membres. Et ça, je l'ai vécu une fois. Je donne un tout petit exemple pour que vous puissiez saisir un peu comment est-ce qu'on pourrait dire ça, le sens de ces choses. J'étais en Angleterre, je travaillais comme volontaire, ou on dit en français bénévole. Je travaillais comme bénévole dans une association qui accueillait des chrétiens. C'était un centre anglican qui accueillait des conférences chrétiennes. Et nous, on faisait la cuisine pour tous ces gens-là. Et c'était aussi pour nous une manière d'apprendre l'anglais. Et la cuisinière, c'était une Suisse allemande qui était très sévère. Et elle nous donnait des ordres et on n'obéissait pas toujours. Et je me rappelle qu'elle était vraiment sévère. Mais je crois que je mettais des frites dans un plat, si je ne me trompe pas. Elle m'avait dit de le faire d'une certaine manière. Et puis je l'ai fait à ma manière, à moi. Elle m'a tapé sur les mains comme ça, vous voyez. Et ça m'est resté non pas comme un traumatisme du tout, hein, rassurez-vous. Vous savez, l'être humain, surtout quand il est jeune, on a besoin dans notre corps d'avoir des impressions qui nous restent et qui nous montrent que le péché est dans notre corps. Il est en nous. Et qu'on a besoin de s'en débarrasser. Vous voyez ? Tout ne se passe pas au niveau de la tête. Il y a des parents qui pensent qu'ils peuvent tout expliquer à leurs enfants, vous voyez, sans jamais qu'il y ait une tape sur les mains ou sur le postérieur pour leur rappeler que le péché est là et qu'ils doivent se réveiller en quelque sorte et qu'il y a aussi des conséquences. Mais pour moi, je me suis dit intérieurement à ce moment-là, c'est incroyable ce que je peux être désobéissant. C'est comme ça que j'ai réagi. Je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est comme si même mon corps ne veut pas se soumettre. Vous voyez, dans des petites choses, on parle d'un détail, vous voyez. Mais avec Dieu, les détails sont importants. Et ce que je veux dire par là, c'est que le baptême, c'est comme le point final avec toute cette désobéissance, cette rébellion qui est en nous. On est rebelle par nature. Nous étions tous des enfants de colère. On est des rebelles. Croyez-moi, on est rebelles. Ça, c'est la nature humaine. Et le baptême, ça nous aide. C'est vraiment quelque chose de très important. Si vous êtes simplement repenti de vos péchés et vous n'avez jamais pris le baptême d'eau, moi, je vous encourage à prendre le baptême. C'est urgent. C'est urgent parce que ça va débloquer quelque chose dans votre vie spirituelle, j'aime autant vous dire. Voilà. Donc, on va reprendre tout à l'heure à partir du verset 12-13, mais on va quand même lire encore le verset 14. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alléluia. Et en fait, ici, ce qui est très intéressant, c'est que ce verset, et on va en parler tout à l'heure, les gens ont isolé le verset 14 de tous les versets précédents. Et oui. Et les gens vous disent, ah, moi, je ne suis pas sous la loi, mais je suis sous la grâce. OK ? Et puis, on a pris juste cette phrase-là, et on l'a interprétée complètement à l'envers de ce que Paul dit, en fait, dans Romains chapitre 6. Et on en parle tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Fait une pause.